الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous reprenons donc la suite de Sourate al-Jin par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hier, nous étions arrêtés au 13e verset. Alors nous reprenons à partir du 14e verset de Sourate al-Jin.
A'udhu billahi as-sami' al-'alim min ash-shaytanir rajim. Wa anna minna al-muslimun wa minna al-qasitun. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
Dans le verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: certains d'entre nous se soumettent à l'ordre d'Allah et d'autres s'écartent de la voie droite. Ceux qui se soumettent à l'ordre d'Allah sont ceux qui recherchent la droiture. Donc ici Allah tabaraka ta'ala explique que les djinns disent que parmi eux il y a, comme il a été déjà dit dans les versets précédents, des gens pieux et d'autres qui ne le sont pas. Des gens qui cherchent la voie droite et d'autres qui s'égarent de tout type d'égarement, que ce soit le grand égarement par la mécréance ou bien les innovations et les sectes qui existent au sein de l'islam. Et ce sont les croyants qui ont opté pour la voie droite, la voie de la raison, c'est-à-dire qu'ils sont dans la bonne direction qui mène vers le paradis et la félicité. Puis dans le verset 15, dans le sens: quant à ceux qui s'écartent de la voie droite, ils seront le combustible de la Jahannam. Ceci pour prix de leurs mauvaises actions, de leurs mauvaises œuvres, et en raison de leurs mauvais choix, et non pas par injustice de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala à leur encontre. Puis dans le verset 16, dans le sens de sa parole: s'ils avaient délaissé l'égarement et s'étaient maintenus sur la voie droite, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante et nous les aurions comblés de nos faveurs. Or, seule leur arrogance et leur iniquité les ont empêchés d'obtenir cela, cette grande récompense et ce bienfait de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah ta'ala a dit dans le sens: afin de les éprouver, Quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, qui est le Coran, il le plongera en un dur châtiment. Donc Allah tabarak wa ta'ala a fait cela afin de les éprouver et de les mettre en situation d'examen pour que le sincère se distingue du menteur. Et celui qui se détourne du rappel d'Allah tabarak wa ta'ala, en l'occurrence ici c'est le livre saint, le Coran, en refusant de le suivre et en refusant de se soumettre à Allah tabarak wa ta'ala et à ses directives, sera soumis à un châtiment douloureux et rigoureux. Dans le verset 18, Allah ta'ala dit dans le sens « Les mosquées sont vouées à l'adoration exclusive d'Allah, n'y invoquez donc personne en dehors d'Allah. » Allah ta'ala a interdit d'adorer et d'invoquer autre qu'Allah dans les maisons qui ont été construites pour Allah tabarak wa ta'ala et qui appartiennent à Allah tabarak wa ta'ala, comme les Quraysh faisaient dans la maison sacrée de la Kaaba à la Mecque. Et ici, il parle des invocations d'adoration, de même que les invocations de requête. Car les masajid, les mosquées, qui sont les lieux les plus sublimes pour l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala, sont bâtis sur la sincérité envers Allah, sur le monothéisme pur, sur la soumission à sa grandeur et sur l'humilité devant sa puissance subhanahu wa ta'ala. Donc comment les gens peuvent aller dans ces mosquées pour invoquer autre qu'Allah et pour lui donner des associés? Puis Allah ta'ala dans le verset 19 dit dans le sens de sa parole, lorsque le serviteur d'Allah se mit à l'invoquer, peu s'en fallut que les djinns et les hommes se ruent sur lui pour faire disparaître son message. Il y a aussi une autre interprétation de ce verset, une autre traduction qui est lorsque le serviteur d'Allah se leva pour l'invoquer, les djinns se pressèrent autour de lui au risque de l'étouffer. C'est-à-dire, quand le serviteur d'Allah, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé pour l'adorer, pour réciter le Coran, peu s'en fallut que les djinns, tellement ils étaient nombreux, se pressent autour de lui et risquent de l'étouffer. Tout cela car ils étaient avides d'entendre ce qu'il avait apporté comme guidé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabarak wa ta'ala dit dans le verset 20, dans le sens, dis-leur, c'est-à-dire, ô Muhammad, dis-leur, je n'adore que mon Seigneur et je ne lui associe personne. C'est-à-dire, dis-leur que je proclame l'unicité d'Allah, lui, l'unique, qui n'a pas d'associé, et je rejette tout ce qu'on lui associe comme idole ou fausse divinité. Dans le verset 21, dis-leur, je ne peux vous protéger d'aucun mal, ni vous accorder le moindre bien. C'est-à-dire que Allah Ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de leur rappeler qu'il n'est qu'un serviteur d'Allah. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah qui ne possède rien du commandement ou de la disposition des choses qui sont l'exclusivité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans le verset 22, dis-leur, si je lui désobéis, personne ne me protégera contre Allah et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui, dans le sens qu'il n'y a personne dont je puisse demander l'assistance pour me préserver du châtiment d'Allah. Si le prophète d'Allah, l'homme le plus aimé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus parfaite des créatures, ne possède ni pouvoir de nuire, ni pouvoir de guider, et ne peut se protéger d'Allah s'il veut lui nuire, que dire alors de toutes les autres créatures en dessous de lui? Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'il ne trouvera ni de refuge, ni d'abri, ni d'assistance en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala si Allah avait décidé de lui nuire. Puis dans le verset numéro 23, je ne peux que vous transmettre ce qu'Allah m'ordonne et ses messages. Quiconque désobéit à Allah et à son messager concernant l'adoration exclusive d'Allah obtiendra le feu de la Jahenn pour demeure éternelle. En effet, Allah tabarak wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Je n'ai pas d'autre mérite sur les gens sauf le fait qu'Allah m'a élu, m'a choisi pour être son messager, pour vous transmettre son message » et pour vous appeler à lui en établissant ainsi l'argument contre les gens. Puis quand il dit « Quiconque désobéit à Allah et à son messager sera voué à jamais au feu éternel », ici il ne parle pas de toute désobéissance comme est la croyance des Khawarij, que les grands péchés sont de la mécréance et que celui qui fait un grand péché sera éternellement en enfer, celui qui meurt sur les grands péchés. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ici, la désobéissance, il parle de la désobéissance majeure, c'est-à-dire la mécréance, celui qui désobéit au message du tawhid, de l'unicité d'Allah, du monothéisme, et qui choisit la mécréance. Donc, il s'agit ici de la désobéissance qui relève de la mécréance, comme cela est précisé dans les textes clairs du Coran, de même que c'est précisé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'ijma', l'unanimité des pieux prédécesseurs et des savants. Quant à la simple désobéissance qui n'implique pas la mécréance majeure, elle n'implique pas l'éternité dans le feu de l'enfer. Dans le verset numéro 24, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens « Les mécréants ne cesseront d'agir ainsi jusqu'à voir le châtiment dont on les menaçait. Ils sauront alors qui disposera des soutiens les plus faibles et les moins nombreux. Quand ils verront de leurs propres yeux et sauront avec certitude que toutes ces promesses vont se concrétiser et qu'ils comprendront en connaissance de cause qui est le moins avantagé en secours et qui est le plus faible en nombre, et ce lorsque personne ne viendra à leur secours, et lorsqu'ils seront rassemblés un par un comme ils ont été créés la première fois. » Puis dans le verset numéro 25, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens « Dis-leur, je ne sais si le châtiment qui vous est promis est proche ou si mon Seigneur lui assignera un long délai. » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce qu'il ne sait pas à quand est l'heure et qu'il ne sait pas quand est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va décider de les châtier et de les punir, que ce soit sur terre ou en décidant que le jour du jugement dernier se lève et qu'il soit châtié éternellement dans l'au-delà. Car la connaissance de l'invisible n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance de l'invisible n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible, comme on va le voir dans la suite des versets. Dans le verset numéro 26, il dit dans le sens « Lui seul connaît l'invisible, qu'il ne dévoile à personne. » Puisque Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui détient la connaissance exclusive des secrets, des consciences, du visible, de l'invisible, du passé, du présent, du futur, de la destinée de chacun et de chaque chose. Subhanahu wa ta'ala. Puis dans le verset numéro 27, il a dit dans le sens « Sauf à celui qu'il agrée comme messager, qu'il fait précéder et suivre d'anges protecteurs. » Car Allah tabaraka wa ta'ala a certes choisi des messagers qui ne sont pas comme les autres gens ordinaires. C'est-à-dire qu'Allah les a choisis. Oui, ce sont des êtres humains, des descendants de Adam, alayhi salatu wassalam. Ils ne sont pas d'une nature divine ou bien une nature angélique ou autre. Ce sont des êtres humains, des fils d'Adam. Mais ce sont les meilleurs fils d'Adam. Ce sont des gens qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisis. Ils ne sont pas ordinaires. Allah ta'ala les a distingués avec ses messages. Allah tabaraka wa ta'ala, il les a protégés de l'erreur dans la transmission du message. De même qu'Allah a protégé tout ce qu'il leur révèle jusqu'à ce que le message soit transmis intègre dans sa totalité sans être dévié ni falsifié et sans que les démons n'aient aucune influence sur eux et sans qu'ils ne puissent y ajouter ou en diminuer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'il est précédé et qu'il est suivi d'une escorte vigilante qui les protège sur l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis dans le verset 28, dans le dernier verset, Allah ta'ala dit dans le sens « Ceci afin que le messager sache que les messagers précédents ont transmis les messages de leur Seigneur et qu'ils sachent que la science d'Allah cerne tout ce qui les concerne et qu'ils dénombrent parfaitement toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala a donc annoncé que tous les messagers sont venus transmettre et ont été préservés et qu'Allah tabaraka wa ta'ala a gardé et a préservé les prophètes pour qu'ils puissent transmettre leur message comme il se doit. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît tous les secrets des êtres humains, tout ce qu'ils montrent en public et tous les moindres détails qui les concernent. Cette sourate contient plusieurs enseignements, entre autres l'existence de créatures qui s'appellent les djinns, qui sont créés d'un feu sans fumée, qui sont responsables de leurs actes autant que les êtres humains, qui sont soumis aux ordres d'Allah et aux interdits, qui seront rétribués pour leurs actes, bons comme mauvais, comme il est montré dans cette sourate. On a vu dans cette sourate qu'ils sont de plusieurs sortes, qu'ils sont croyants ou mécréants, qu'ils peuvent être parmi les croyants dans des sectes égarées, comme celles qui existent chez les hommes, etc. On tire comme enseignement dans cette sourate que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé aux djinns comme il a été envoyé aux humains. Car Allah tabaraka wa ta'ala a suscité ce groupe de djinns pour aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et écouter la révélation, puis retourner à leur peuple pour les informer de ce message. Cette sourate montre que les djinns sont doués d'intelligence et que certains parmi eux connaissent et acceptent la vérité. Car ce qui les a amenés à la foi, c'est leur connaissance de la guidée du Coran. Elle montre aussi qu'Allah prend soin de son messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah protège ce qu'il a apporté comme révélation. En effet, dès le début de la révélation, le ciel devint gardé et les démons s'enfuirent de leur lieu et de leur repère, car Allah avait décidé d'envoyer sa miséricorde aux habitants de la terre et avait décidé de leur envoyer la guidée et la bonne voie par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aussi fit-il connaître sa religion et sa loi sur terre en envoyant son messager dont l'envoi remplit de bonheur les gens sensés et il remplit de dépit les adeptes des idoles et des fausses divinités. Cette sourate montre aussi le souci qu'ont les djinns d'entendre la récitation du Coran en se regroupant autour du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam au point de l'étouffer. Cette sourate contient également la proclamation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'interdiction du polythéisme et montre qu'aucune créature ne mérite d'être adorée, ne serait-ce le poids d'un atome. Car si Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même ne possède ni le pouvoir d'être utile ou de nuire pour lui-même et pour autrui, il est exclu à plus forte raison que les créatures puissent avoir ce pouvoir. C'est donc une grande erreur et une grave déviation et un grand égarement de prendre de telles créatures pour des divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate montre aussi qu'Allah seul détient la connaissance des sciences de l'invisible, qu'aucune créature ne connaît l'invisible à part celle qu'Allah a choisie et a distinguée pour leur en accorder une partie de sa connaissance, c'est-à-dire par la révélation. Ainsi s'achève la lecture et l'explication de Sourate al-Jinn. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.